Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'écouter Studio Tamani. Bienvenue à cette édition matinale. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite désormais opérationnel. Ses membres ont prêté serment hier devant les sages de la Cour suprême. Le président de l'Office demande aux Maliens de faire confiance à cette institution. Pour certaines organisations de la société civile, cet office ne sera qu'une institution de plus. Elles estiment que l'Office national de lutte contre l'enrichissement illicite n'aura aucun impact sur la corruption et la délinquance financière. Une attaque au mortier a visé le camp de l'ONU hier à Tombouctou. Plusieurs soldats français ont été blessés, dont un grièvement. L'attaque a été annoncée par l'état-major français. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football aura lieu le 12 juin prochain. C'est le président de la FEMA Foot Boubacar Baba Diarra qui l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse. Assetou Kanté est à la présentation de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est désormais opérationnel. Ses membres ont prêté serment hier devant les sages de la Cour suprême. La douzaine de membres qui composent cette institution ont pour mission de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention et de contrôle pour lutter efficacement contre l'enrichissement illicite. Selon Moumine Guindo, président de l'Office, l'activité principale consistera à s'assurer qu'il n'existe pas de biens illicites dans les patrimoines des fonctionnaires. Il est au micro de Mahaman Babakunta.
L'activité principale va consister à nous assurer notamment que les fonctionnaires sont détenteurs de biens qui sont en rapport avec les revenus légitimes. Une manière de nous assurer qu'il n'existe pas de biens illicites dans les patrimoines des fonctionnaires. Et donc l'outil principal va être l'exploitation des déclarations de biens pour examiner la consistance du patrimoine de chaque fonctionnaire et de faire la comparaison avec les revenus légitimes versés à ces fonctionnaires et dégager les écarts pour éventuellement nous assurer qu'il y a une conformité ou une non-conformité. Pour faciliter les choses, la loi prévoit que le fonctionnaire, à l'égard duquel existe une présomption, doit faire la preuve du caractère licite. On doit faire confiance à cette structure et au bout de quelques jours déjà, nous verrons les premiers résultats.
Certaines organisations de la société civile se montrent sceptiques quant à l'efficacité de cet office. C'est le cas du réseau des Vertes citoyennes Djogoni Maya. Ses responsables pensent que cet office sera une institution de plus, mais qui n'aura aucune incidence sur la corruption et la délinquance financière. Professeur Abdoulaye Niang est membre du réseau Djogoni Maya. Il était l'un des invités de l'émission Grand Dialogue d'hier.
Vous savez, nous sommes à moins d'un an des élections. On s'excite et on essaie de lancer des choses pour amuser la galerie un peu, pour tromper les gens et donner un second mandat. Ça s'arrête là. C'est dans ces cas que les routes sont là. Tout. Donc ça, c'est un mouvement qui ne donnera pas de résultats. Sinon, aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour pouvoir commencer à arrêter et donner vraiment le signal. Parce que tant qu'on ne donne pas l'exemple, qu'on a arrêté de gros bonnets qui sont partis dans... de gros poissons qui sont partis dans le trou, et ça ne convainc personne. En tout cas, nous, en ce qui concerne la veille citoyenne, parce que je suis quand même là en tant que membre du directoire de la Cour nationale de veille stratégique et citoyenne, et là, nous ne croyons pas du tout du réseau Djogoni Maya, nous ne croyons pas du tout que ça va donner des résultats. C'est une institution de plus, et on a donné du travail à des amis, et puis, ou à des parents.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Pas de répit pour l'armée malienne et les forces internationales alors qu'un convoi de l'armée est tombé dans une embuscade terroriste ce mercredi près de Nampala. Une attaque au mortier a visé le camp de l'ONU à Tombouctou. Plusieurs soldats français ont été blessés, dont un grièvement. L'attaque a été annoncée par l'état-major français. Les détails avec Sekou Gadigo.
Le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Patrice Taïdjer, a indiqué qu'un tir de mortier est intervenu hier à 8h40 sur le camp de la MINUSMA. Il est tombé à proximité de l'emplacement des soldats de la force Barkhane. Toujours selon le porte-parole, il y a plusieurs blessés français, dont un grave. Ils ont été pris en charge par les structures médicales de la mission de l'ONU au Mali et de la force Barkhane, toutes deux stationnées à l'aéroport de Tombouctou. L'armée suédoise, qui a mobilisé son quarantaine médicale après l'attaque a fait état de son côté de 4 soldats blessés sans préciser leur nationalité. Au cours de l'attaque, 4 soldats d'un autre pays ont été blessés, a indiqué la défense suédoise dans un communiqué qui a précisé qu'ils ont été pris en charge par le personnel médical suédois stationné à l'intérieur du camp de l'ONU. Cette attaque est intervenue alors qu'un convoi de ravitaillement de l'armée avait aussi été pris en embuscade mercredi près de Nampala, dans le centre du pays. Selon des sources locales, 3 soldats maliens ont été tués et 2 autres blessés.
Ici à Bamako, un nouveau projet de lutte contre la migration des enfants a été lancé hier. Le programme vise à maintenir les enfants des régions de Kaya, Ségou, Tombouctou, Gao et le district de Bamako à l'école. Il est financé par la coopération allemande à travers l'ONG Enda Mali à hauteur de 500 millions de francs CFA sur une durée de 3 ans. Zoumana Koulibaly, directeur exécutif d'Enda Mali, au micro de Omar Bekalo.
Il s'agit effectivement d'un programme qui va travailler sur la problématique de la migration des enfants. Le programme va travailler non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural, justement pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs concernés puissent conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que vraiment les enfants soient protégés contre ce fléau. De ce point de vue-là, la stratégie pour faire cette prévention est essentiellement bâtie autour de l'école. Parce qu'un enfant doit être à l'école. L'école est le seul lieu où les enfants doivent être. Pour nous, un travail énorme doit être fait en milieu rural avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école puissent aller à l'école et rester à l'école jusqu'à la fin du cycle fondamental. Et là, on est sûr qu'ils seront protégés contre la migration.
Et justement, parlant des enfants, l'association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant à Maldem traverse de moments difficiles. Cette structure de prise en charge des enfants en situation de déficience mentale est privée d'électricité depuis plusieurs mois. Aussi, la Maldem cumule 3 mois d'arriéré de salaire de son personnel. Les responsables appellent les autorités et les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. Azaz Ag Mohamed Iknan, directeur exécutif de la Maldem, au micro de Ousmane Diko.
Bon, les difficultés sont liées surtout à un problème financier. Le fonctionnement en tant qu'État repose d'abord sur les salaires du personnel. Malheureusement, le personnel a 3 mois d'arrivée sans être payé. Autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le courant n'existe pas. L'appel que nous avions lancé à l'endroit du peuple malien, c'est que la Maldem, c'est un patrimoine national. C'est pour le Mali tout entier et c'est pour l'Afrique tout entière. Ce que j'ai dit à l'autorité, c'est que les droits à l'éducation, les droits à la sécurité, les droits à la vie, à une vie décente, ça c'est un droit pour tout Malien, quelle qu'en soit sa situation. Mais malheureusement, on voit avec les enfants de la Maldem que tel n'était pas le cas quelque part. Il y a un flou dans l'interprétation des textes. Nous leur invitons à revenir réellement sur le décret de 96 qui a été pris en charge, où certains ministères ont été cités pour la prise en charge sérieuse de ce décret.
L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football aura bel et bien lieu le 12 juin prochain. C'est le président de la FEMAFOOT, Boubacar Babadiara, qui l'a déclaré hier lors d'une conférence de presse. Selon lui, la rencontre a déjà été convoquée et lors du jour fixé, celui-ci portera sur la confirmation de la levée de suspension contre des dirigeants de clubs dans le cadre de la crise du football. Boubacar Babadiara, président du comité exécutif de la FEMAFOOT, au micro de Imarana Kilumaïga.
Le but de la conférence de presse est d'informer le public malien, le public sportif malien, sur d'abord le contenu du protocole d'accord que nous avons signé le 27 avril avec le collectif des clubs et également l'état de mise en œuvre de ce protocole d'accord. Il est ressorti que nous avons exécuté l'entièreté des tâches qui nous avaient été dévolues dans le cadre du protocole d'accord. Et aujourd'hui, je pense que nous avons fini. Nous avons fini d'exécuter ce protocole d'accord. Le dernier point qui reste à exécuter, c'est la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire le 12 juin. La convocation a été lancée, l'ordre du jour a été fixé. L'ordre du jour porte sur la confirmation par l'Assemblée générale, la Fédération malienne de football, la levée des sanctions qui frappaient les personnes physiques dans le cadre de la crise du football malien. C'est le seul point à l'ordre du jour.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, plus de 60 leaders religieux et membres de la société civile ont participé mercredi à Kadjola à une conférence sur le dialogue interreligieux. Cette conférence rentre dans le cadre de la sensibilisation des leaders locaux pour lutter contre le terrorisme. L'atelier a été organisé par Think Peace. 3 morts et 74 blessés, c'est le bilan des accidents de la route enregistrés à Koulikoro au mois d'avril 2017. C'est ce qu'indique le rapport mensuel de la Direction régionale de la protection civile. Selon le document, au cours du même mois, une personne a été victime de noyade dans la région. Sur 10 jeunes de la commune urbaine de Gao, 9 consomment du tabac. Ces chiffres ont été communiqués mercredi lors d'une conférence organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Gao. L'objectif de la session était d'expliquer aux jeunes les effets néfastes du tabac sur la santé. Cette activité rentrait dans le cadre de la Journée internationale sans tabac. 8 heures passées des 10 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, le magazine.